Il est 9h40, merci d'accueillir l'instant M dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça qu'on est en direct.
Après Twitter, où il cause déjà à 30 millions de personnes, le pape s'est uni à nous sur Instagram, engrangeant les nouveaux abonnés plus vite que Justin Bieber ou David Beckham. Nouveau pape, nouveau média. Eh bien, ce serait mal connaître le Vatican, machine à communiquer ultra professionnalisée, ayant tiré profit de toutes les révolutions médiatiques dans l'histoire. Reste le style propre à François, il privilégierait la relation directe. Cela en fait-il pour autant un pape au même niveau que ses ouailles virtuelles? David Douillère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université François Rabelais de Tours. On s'interroge ensemble sur les nouveaux outils de l'évangélisation, ça c'est mon pari du jour, juste après l'actu et Julien Pin. Salut Julien.
Salut.
Prof, ouvrez grand vos oreilles, cette chronique est pour vous, et si elle raconte un peu de ce qui se passe dans vos classes chaque après-midi, dites-le nous, hashtag Instant M.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
السلام عليكم ورحمة الله هذه هي أخبار الساعة من قناة الجزيرة وأبرز ما فيها.
Il y a 20 ans, au lancement d'Al Jazeera, souvenez-vous, le Qatar ne lésinait pas sur les moyens. La baisse des cours du pétrole et du gaz aura-t-elle eu raison des ambitions médiatiques de ce pays du Golfe? Al Jazeera annonce la suppression de 500 postes à travers le monde pour éponger ses déficits. Et ce, juste après avoir fermé Al Jazeera America et liquidé au passage 700 emplois déjà. Rappelons également que la filiale sport d'Al Jazeera en France, que vous connaissez bien, il s'agit de Bein Sport, vient d'accepter l'énorme chèque de Canal+ pour cesser de lui faire concurrence. Alors, j'accueille Julien Pin dans l'Instant M. Julien Pin, l'homme des observateurs de France 24, soyez le bienvenu. Vous avez un œil continu sur le flot des vidéos que charrient chaque jour les réseaux sociaux. Il en est un d'un nouveau genre que vous voyez pulluler tous azimuts. Alors, ces vidéos, elles sont réalisées grâce à Periscope, une application qui permet de filmer en fait avec son smartphone et de retransmettre en direct ces images sur Internet.
Voilà, c'est un service qui appartient à Twitter et donc les deux marchent ensemble. Quand vous lancez une diffusion, ça envoie un tweet automatiquement à vos abonnés et comme ça, ils peuvent venir vous voir ce que vous êtes en train de filmer. En plus, c'est très interactif. Pendant que vous faites votre direct, les gens peuvent vous envoyer des messages qui s'affichent sur votre téléphone et auxquels vous pouvez répondre.
Voilà, alors cette appli, elle était totalement inconnue au bataillon et en tout cas inconnue du grand public, jusqu'à ce qu'un joueur du PSG qui s'appelle Serge Aurier insulte son entraîneur Laurent Blanc par Periscope interposé. Scandale. Et depuis, eh bien, c'est l'une des applis les plus téléchargées en France. À quoi l'utilise-t-on exactement, Julien?
Eh bien, filmer des événements d'actualité, comme ça a été le cas par exemple lors des attentats de Bruxelles, mais c'est surtout utilisé par des ados. Si vous allez sur Periscope en semaine, vous allez trouver des dizaines de vidéos qui sont tournées en direct dans des salles de classe. On voit des ados qui racontent leur vie, qui filment leurs copains, tout en essayant de ne pas se faire repérer par le prof. Évidemment, ça les fait beaucoup rire de faire ça à la barbe de leurs enseignants. Alors écoutez, cette jeune fille, elle était en cours d'anglais, moi je la regardais sur Periscope comme ça, et là, son prof arrive.
Attendez.
It's four, question six.
I walk.
Are you sure?
I'm walking, yeah. Yes, because I'm tired. Yes.
Excusez-moi, il y avait urgence là. Il y avait trop ma prof à côté là, je sais pas.
Voilà, il y avait trop ma prof à côté. Bon, je suis pas sûre que ça les fasse marrer longtemps. Les profs, en tout cas, tous les enseignants le racontent. C'est devenu le fléau des débuts et des fins de cours Periscope.
Alors ça, c'est sûr. Et en plus, pendant ces micro-tournages, les élèves se lancent des défis. Alors genre, à 50 likes, je clash le prof. D'où une espèce de concurrence entre les élèves à qui fera la plus grosse connerie et en direct. Alors à mon avis, l'éducation nationale va finir par sévir.
Voilà, alors ça, c'est pour les profs. Maintenant, la police. Il y a un autre type de Periscope à la mode, ça se passe cette fois dans les cités de la banlieue parisienne.
Eh oui, je suis tombé sur des vidéos tournées en bas des grands immeubles. Alors ceux qui se filmaient se présentaient comme des guetteurs. Vous savez, ces jeunes qui sont chargés d'avertir les dealers en cas de descente de police. Donc ces guetteurs, ils s'ennuient, alors ils filment et parfois ils disent très clairement ce qu'ils sont en train de faire.
Vas-y gros, voilà, il y a un gueux. Lui c'est un guetteur, il va guetter là.
Je m'appelle Sine Yalajraf, j'habite à
5 rue Rimichdalfur-Nassa, Saint-Denis. Cité de Nomsor. Je guette de 10h à 21h, je suis payé 50 euros par monsieur. Je ne dirai pas les noms, c'est écrit dans le pire. Ah.
Alors évidemment, Jérôme Boulet, notre réalisateur, s'est acharné à brouiller les quelques informations clés qui sont données dans cette vidéo totalement hallucinante. Hein, parce que là, il dit ce qu'il fait le guetteur, il dit combien il gagne, il donne même son nom, le tout en fumant des joints sur le canapé.
Julien. Ouais, attends, je précise que cette vidéo était accessible à tout le monde, et y compris potentiellement donc à des policiers. Mon conseil donc à tous les dealers, il fallait bien qu'un jour, je donne une fois dans ma vie des conseils à des dealers.
Ben voilà, c'est
dans
fait.
L'appli, vous pouvez choisir une option pour ne pas sauvegarder vos vidéos. Ça passera donc en direct, mais après ça disparaîtra. Alors si j'étais vous, eh ben, je cocherais cette option.
Voilà, j'espère que beaucoup de dealers nous écoutent et que les flics qui les pourchassent également. Merci Julien. Un autre petit mot sur une innovation technologique qui se traduit par une nouvelle forme d'application. Je le dis tout de suite parce que c'est pas une application créée et lancée par le Vatican, David Douillard. Ça s'appelle GeoConfesse. Vous avez entendu parler, David, de GeoConfesse?
Oui, bien sûr.
Oui. Alors, on raconte juste en deux, trois mots ce que c'est. C'est un entrepreneur catholique et c'est la chaîne Catéo, qui est donc cette chaîne de confession catholique sur le PAF, qui ont créé GeoConfesse. C'est une application lancée et présentée comme le Uber de la confession. L'idée, c'est de mettre en relation des prêtres et des pénitents en temps réel. En fait, c'est ce qu'on appelle la cathothèque, c'est-à-dire tous les outils de l'innovation technologique au service de la religion. Voilà, je voulais quand même le mentionner dans l'actu. Oui, David ?
C'est le paysage audiovisuel catholique, le PAC plutôt. Mm-hmm. Et en fait, il s'agit de contourner le fait qu'on ne peut pas avoir de confession en ligne ou par des instruments numériques. Donc, il s'agit d'orienter vers le sacrement de la confession, comme ils disent, en présentiel, en local.
Voilà, donc vous êtes dans un TGV, vous avez une envie brûlante de vous confesser.
Là, il faut attendre un petit peu.
Il faut attendre un peu, mais rien ne dit que deux rames plus loin, voilà, il n'y ait pas un prêtre qui soit prêt à
Ce n'est pas Uber au sens où ce n'est pas un autre acteur en même temps. C'est l'institution elle-même qui assure
la confession. Voilà, ça c'est important de le préciser, vous avez
pour
raison.
Pour le moment.
L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Le rendez-vous du synode.
Depuis trois semaines, les acteurs de cette assemblée sur la famille se succèdent dans les studios de Radio Vatican.
Le pape Francisco célébrou la messe de la Ceia du Seigneur fora du Vaticano.
L'intention du Holy Father is to look at this issue.
Argentina catholique et pété christian recibe papa sat.
Denn Gott leidet angesichts.
Le rendez-vous du synode. Toute l'actualité du synode sur la famille.
Non si è mai ignorata nel cristianesimo la misericordia di Dio.
Voilà, le Vatican a sa radio et le Vatican a sa radio de fort longue date, une radio diffusée en 45 langues. David Douillard, je le disais, vous êtes un éminent spécialiste de ce lien riche, complexe et ancien qui unit le Vatican aux médias. Vous enseignez à l'université de Tours, vous enseignez également à l'école publique de journalisme de Tours. Alors il y a eu d'abord l'engouement des journalistes, précisément pour ce nouveau pape, pour François, mais ce qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, c'est l'envolée de ce même François sur les réseaux sociaux. En même temps, Twitter, c'est pas lui, c'est déjà son prédécesseur.
C'est Benoît XVI, absolument, à l'instigation du conseiller en communication Greg Burke, présent au Vatican. Il semble que le pape
On peut
François...
dire un mot de Greg Burke, quand même.
Oui, il a conçu une stratégie de communication transversale pour Benoît XVI. Il a été très présent il y a quelques années.
Il est américain, voilà. Natif du Missouri. C'est un ancien journaliste de Fox News.
Proche de l'Opus Dei, semble-t-il.
Et qui apparemment a fait vœu de célibat. Donc,
comme un certain nombre de célibats consacrés à l'Opus Dei.
Ouais, à l'Opus Dei, c'est cela. Voilà, donc c'est un premier mot pour comprendre à quel point tout cela est extrêmement professionnalisé. D'ailleurs, il a un titre, Greg Burke au Vatican, il est senior communication advisor, c'est-à-dire qu'il a un titre quasiment de
professionnel,
multinational. Donc Pontifex, c'est Twitter, c'est le Twitter papal ouvert par Benoît XVI en décembre 2012. 30 millions de followers aujourd'hui, 9 langues, 9 millions qui le suivent en anglais, 11 millions en espagnol. Il y a dès 2014 un texte qui a fait date, David Douillard, c'est-à-dire que le pape s'est exprimé sur Internet, il en a fait un don de Dieu. Et ça a beaucoup surpris.
Dans le 48e message pour les Journées mondiales de la communication sociale, il expliquait qu'Internet est une bonne chose et un don de Dieu. Alors ça se situe dans la doctrine du Concile Vatican II qui précisait dans le texte Inter Mirifica que les médias sont des merveilles et des dons de Dieu. Il s'agit de l'utiliser pour évangéliser ce que Benoît XVI avait appelé le continent numérique et donc se servir, comme l'Église catholique l'a toujours fait, de tous les outils possibles pour inviter à une rencontre avec le Dieu chrétien. Et...
Alors, ça donne, pour les 3 ans du règne de François, une arrivée sur Instagram. Instagram, c'est une filiale de Facebook. 400 millions d'utilisateurs à travers le monde. Son compte a été intitulé Franciscus. Il a été annoncé d'ailleurs sur Radio Vatican. Il faut savoir que Instagram, ça fonctionne avec des images, avec des photos. Un seul cliché posté. Le million d'abonnés atteint en 720 minutes. 23 abonnés par seconde, ont compté les spécialistes, 83 000 par heure, mieux que des superstars de la pop culture. Et en même temps, on sait que François a rencontré tous les grands patrons de la Silicon Valley, y compris le patron d'Instagram au mois de février. Est-ce que vous pensez, David Douillère, que de la part de la Silicon Valley, il y a aussi une forme de démarchage commercial, de démarchage, de lobbying auprès du Vatican ?
Oui, bien sûr, ça rend visible. Le PDG d'Instagram a expliqué que c'était sans doute une des grandes rencontres de sa vie. Ce qui est curieux de la part du pape catholique, c'est le fait qu'il y ait à la fois d'un côté une critique du capitalisme mondial et de la soumission aux puissances de l'argent, et d'autre part une utilisation d'un canal d'une entreprise américaine privée.
C'est assez paradoxal. À qui il offre une vitrine absolument extraordinaire. En même temps, ça pose aussi la question de savoir comment il se sert des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, normalement, ont pour vocation de rendre la communication tout à fait horizontale, de mettre à égal celui qui émet le message et celui qui le reçoit dans une forme de dialogue et d'interactivité continue. C'est absolument pas le cas du Vatican, David Douillère.
Si, sur Instagram c'est le cas, puisqu'il y a une phrase spirituelle et que les gens répondent Amen, Amen, Amen en série. Non, je plaisante, il n'y a évidemment pas dialogue à égalité. Il y a quelques commentaires un petit peu agressifs, il y a un rappel d'un texte du Deutéronome, par exemple, sur une image, tu ne forgeras point d'image taillée, dit un commentateur, protestant peut-être, je ne sais pas. Effectivement, il n'y a pas d'égalité. En revanche, il y a une diffusion...
C'est comme l'utilisation d'Internet comme un média de masse, c'est-à-dire comme un nouveau média de masse. C'est-à-dire, j'émets un message et Internet va être une caisse de résonance et d'amplification phénoménale.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le compte Instagram du pape, on voit qu'il ne suit pas lui-même d'autres... titulaire de compte Instagram.
C'est ça.
C'est utilisé en fait comme une communication, paradoxalement de masse bien sûr, mais individuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire une proximité, et le pape François en parle beaucoup dans ses textes, construire une proximité personnelle en quelque sorte avec les personnes, et il le conçoit comme une rencontre individuelle.
Alors, on va écouter un petit peu aussi de la prière du mois de mars. Ça, c'est la chaîne YouTube du Vatican.
La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable?
Voilà, la chaîne YouTube qui prend le relais de la radio du Vatican dont on vous a parlé, la radio du Saint-Siège diffusée en 45 langues et créée depuis 1931. On va égrener avec vous, David Douillère, toutes ces révolutions médiatiques qui ont scandé l'histoire moderne du Vatican. Mais d'abord, peut-être une réflexion de fond. Finalement, l'Église catholique est déjà une structure de médiation et de médiatisation entre Dieu et les hommes. Donc il n'y a là absolument rien de contre-nature ni de contradictoire avec la mission de l'Église.
Absolument, c'est le prolongement naturel de l'action de l'Église. Sur ce compte Instagram, on voit des images du pape dans l'ombre devant un crucifix, des crucifix seuls, une icône avec le pape à côté, des mains qui se rencontrent. Donc ça poursuit en fait la tradition de l'image de piété. Des petites images découpées, développées à la fin du 15e et fortement au 19e siècle. Là, on a des images de piété numériques. Et attention, il n'y a pas que des images, il y a des petits textes à côté. Des petites phrases spirituelles. Suivez Jésus, il vient nous rencontrer dans notre souffrance, etc.
Mais vous voyez, là, il y a quand même une forme de paradoxe pour l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que le Vatican nous apparaît quand même encore comme une forteresse, comme une entité très opaque, alors que par nature, l'Église est une entité communicante.
L'Église est fondamentalement catholique et fondamentalement, comme d'autres religions sans doute, une structure de communication, puisqu'elle pense des textes, des images, pour mettre en relation une communauté, sans doute pour la constituer puis la piloter, et aussi mettre en relation avec un être divin, absent ou présent, et présent par les mots et les images. Sur en commentaire d'une des images présentes sur Instagram, d'un crucifix, il y a la mention « chair de Dieu ». C-H-A-I-R-E, cathédra di Dio. Et c'est-à-dire que le crucifix est pensé comme ce par quoi Dieu parle. Donc il y a dans l'Église catholique une théologie de la communication, c'est-à-dire qu'on pense que le Christ, qui est le Verbe, qui est Dieu, se communique. Donc la communication précède Instagram et précède Radio Vatican, et elle est fondamentalement l'action de l'Église catholique.
Et alors on peut préciser que 1896, Léon XIII sera le premier pape de l'histoire dont la voix est enregistrée, il est filmé dans les jardins du Vatican. C'est avant le premier film des Frères Lumière, c'est dire quand même. 1931, Pie XI diffusera le premier message radiophonique de la papauté, ce sera en latin. 1939, ouverture d'une salle de presse. On peut dire peut-être un mot des journalistes. Vous nous dites ce que c'est que des vampes ? Dans le vocabulaire du Vatican, ce sont ces journalistes accrédités. Ils sont 70 journalistes internationaux, les Vatican Accredited Media Personnel, qui suivent le pape. Et là aussi, il y a eu une forme de révolution avec l'arrivée de François et un style très personnel. Ces photos du pape dans l'avion du Vatican parlant directement aux journalistes, sortis de toute forme de protocole ou de conférence de presse, ça a beaucoup, beaucoup frappé les esprits.
Et là aussi, une proximité dans l'échange. Il y a une volonté d'utiliser ces médias dans une relation personnelle et dans une proximité. Pour, je cite, toucher le cœur, quoi. Embraser le cœur, etc.
Alors, grande différence entre le pape François et ses prédécesseurs, c'est la multiplication des interviews données à la presse. Tous les grands journaux italiens ont été arrosés la première année, la Stampa, la Repubblica et le Corriere della Sera. Une interview à Paris Match, c'était impensable du temps de Jean-Paul II, David Douillère.
Oui, il y avait une figure plus institutionnelle. En même temps, Jean-Paul II est le premier qui a médiatisé sa propre figure. Je crois que les papes faisaient moins l'attention des médias et étaient moins connus internationalement qu'ils ne l'ont été à partir de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a développé cette image charismatique de témoin, porteur de foi, etc. Il y a une forme de continuité, même si François construit dans sa logique d'être un pasteur, une proximité...
Parce qu'il y a là une démarche pastorale.
Oui, voilà. En fait, souvent, quand on parle de communication du pape François ou du Vatican, on oublie que dans la fonction du prêtre catholique ou de l'évêque, il y a une dimension dite pastorale, c'est-à-dire d'accompagnement des brebis, c'est-à-dire des fidèles, qui, du coup, va jouer de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention pour faire passer le message chrétien.
Et en même temps, quelle est la part de la communication, de la stratégie de communication pensée, voulue, délibérée dans la papamania qui a envers les médias. Je rappelle que le pape François a fait la une de Rolling Stones quand même l'année dernière.
Il y a un texte, il y a 2 ans, je crois, dans les messages pour les journées de communication sociale, où le pape François dit que les stratégies ne produisent pas la bonté et la beauté. Donc je pense qu'il y a une stratégie, bien sûr, et par-dessus, il y a une volonté de développer autre chose, qui est une rencontre, une pseudo-simplicité, et de pas être seulement dans la stratégie, en fait.
Merci beaucoup, David Douillère. Merci de ce détour par l'Instant M. C'est la fin de l'émission, puis je souhaite à tout le monde un joli et un joyeux lundi de Pâques, tranquillement à la maison, à écouter France Inter, c'est l'occasion. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia de Villers. Dans Un jour en France, ce matin, nous, ouvriers, c'est un documentaire qui passe ce soir, le 3e volet sur France 3, qui donne la parole aux ouvriers. Et le fil rouge, c'est ils sont devenus les invisibles de la société. Alors parole à eux, si vous êtes ouvriers, témoignez sur France Inter, racontez-nous vos conditions de vie, de travail et ce sentiment ou pas d'être invisible dans la société. 01 45 24 7000, unjouranfrance@radiofrance.com.
Voilà, ce sera juste après les infos.